Volume 2, Appendice, Section 3. La gravitation est-elle une loi ? La théorie corpusculaire a été mise de côté sans cérémonie. Mais la gravitation, le principe en vertu duquel tous les corps s'attirent entre eux, avec une force directement proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare, survit encore et continue à régner en souveraine sur les prétendues vagues éthérées de l'espace. En tant qu'hypothèse, elle a été menacée de mort parce qu'elle n'arrivait pas à embrasser tous les faits qu'on lui soumettait. En tant que loi physique, cette gravitation est la reine des récents impondérables qui furent un moment tout puissants. C'est presque un blasphème, une insulte à la grande mémoire de Newton que d'en douter. Telle est l'exclamation d'un critique américain d'Isis dévoilé. Très bien. Mais quel est en définitive ce Dieu invisible et intangible auquel nous devons croire aveuglément? Les astronomes, qui voient dans la gravitation une solution facile pour bien des choses et une force universelle qui leur permet de calculer les mouvements planétaires, se préoccupent fort peu de la cause de l'attraction. Ils appellent la gravitation une loi, une cause par elle-même. Nous qualifions d'effets les forces qui agissent sous ce nom, et même d'effets très secondaires. On découvrira un jour qu'après tout, l'hypothèse scientifique n'est pas satisfaisante et elle ira rejoindre la théorie corpusculaire de la lumière pour être classée durant des siècles dans les archives des théories abandonnées. Newton lui-même n'a-t-il pas exprimé des doutes sérieux sur la nature de la force et sur la matérialité des agents, comme on les appelait alors? Il en est de même de Cuvier, cette autre torche scientifique qui éclaire les ténèbres de la recherche. Dans sa révolution du globe, il attire l'attention de ses lecteurs sur la nature douteuse des prétendues forces, en disant « Après tout, il n'est pas sûr que ces agents ne soient pas des agents spirituels. » Au commencement de ses Principia, Sir Isaac Newton eut grand soin de bien faire comprendre à son école qu'il n'employait pas le mot « attraction » dans un sens physique, en ce qui concerne l'action que les corps exercent les uns sur les autres. Pour lui, disait-il, c'était une conception purement mathématique, n'impliquant pas de considérer des causes physiques réelles et primordiales. Dans un passage de ses Principia, il nous dit clairement que, considérées au point de vue physique, les attractions sont plutôt des impulsions. Dans la section 11, entre parenthèses introduction, il exprime l'opinion qu'il existe quelque esprit subtil dont la force et l'action déterminent tous les mouvements de la matière. Et dans sa troisième lettre à Bentley, il s'exprime ainsi, citation, il n'est pas concevable que la matière brute inanimée puisse, sans l'intervention de quelque chose d'autre qui ne soit pas matériel, agir sur d'autres matières et l'affecter, sans contact mutuel, comme elle doit le faire si la gravitation, comme la comprend Épicure, lui est essentiellement inhérente. L'idée que la gravitation serait innée, inhérente et essentielle à la matière, de façon qu'un corps puisse agir sur un autre à distance et réciproquement, au travers du vide, sans l'intervention d'aucune autre chose par l'entremise de laquelle l'action puisse être transportée de l'un à l'autre, me semble être une telle absurdité qu'il me paraît impossible qu'un homme doué de la faculté de méditer avec compétence sur les questions philosophiques puisse jamais tomber dans cette erreur. La gravitation doit être provoquée par un agent qui intervient d'une manière constante suivant certaines lois, mais que cet agent soit matériel ou immatériel, j'ai laissé à mes lecteurs le soin d'en décider. » Fin de citation. Les contemporains de Newton furent eux-mêmes effrayés par cette apparente réapparition des causes occultes dans le domaine de la physique. Leibniz appela son principe d'attraction une puissance immatérielle et inexplicable. La supposition de l'existence simultanée d'une faculté d'attraction et d'un vide absolu furent qualifiées de révoltantes par Bernoulli, et le principe de l'actio in distance ne fut pas plus en faveur qu'il ne l'est aujourd'hui. Euler, d'autre part, pensait que l'action de la gravitation était due soit à un esprit, soit à un milieu subtil. Pourtant, Newton avait connaissance de l'éther des anciens s'il ne l'acceptait pas. Il considérait l'espace intermédiaire qui sépare les corps sidéraux comme étant le vide. C'est pourquoi il croyait, comme nous, à un esprit subtil et à des esprits dirigeant cette prétendue attraction. Les paroles du grand homme que nous avons cité plus haut ont produit de maigres résultats. L'absurdité est devenue un dogme pour le matérialiste pur qui s'en va répétant. Pas de matière sans force, pas de force sans matière. Matière et force sont inséparables, éternelles et indestructibles. Entre parenthèses, c'est vrai. Il ne peut exister de force indépendante puisque toute force est une propriété inhérente à la matière et qui lui est nécessaire. Entre parenthèses, c'est faux. En conséquence, il n'existe pas de pouvoir créateur immatériel. Ô pauvre sœur Isaac ! Si laissant de côté tous les autres savants éminents qui partageaient l'opinion d'Euler et de Leibniz, les occultistes se réclament seulement de Sir Isaac Newton et de Cuvier, cités plus haut, ils auront peu de choses à craindre de la science moderne et pourront proclamer hautement et fièrement leurs croyances. Pourtant, les hésitations et les doutes des autorités que nous venons de citer et de bien d'autres encore que nous pourrions nommer n'ont pas le moins du monde empêché la spéculation scientifique d'errer à l'aventure dans les champs de la matière brute, tout comme auparavant. Nous avions d'abord la matière et un fluide impondérable qui en étaient distinctes, puis survint le fluide impondérable que Grove a tant critiqué, ensuite l'aether, d'abord discontinu, pour devenir plus tard continu, et après lui les forces mécaniques. Celles-ci sont maintenant installées comme mode de mouvement, et l'aether est devenu plus mystérieux et plus problématique que jamais. Plus d'un savant proteste contre des vues aussi crûment matérialistes, mais depuis l'époque de Platon, qui ne cessait d'inviter ses lecteurs à ne pas confondre les éléments immatériels avec leurs principes, les éléments transcendantaux ou spirituels, depuis l'époque des grands alchimistes qui, à l'exemple de Paracelse, établissaient une grande différence entre un phénomène et sa cause ou son noumen, jusqu'à Grove qui, tout en ne voyant aucune raison de dépouiller la matière universellement diffusée des fonctions qui sont communes à toute la matière, n'en employait pas moins le mot « force » là où ses critiques, qui n'attachent au mot aucune idée d'une action spécifique, disent « force ». Depuis lors, jusqu'à présent, rien n'est parvenu à refouler la marée montante du matérialisme brutal. La gravitation est la cause unique, le Dieu actif est la matière et son prophète, disaient les savants il y a quelques années seulement. Depuis lors, ils ont changé plusieurs fois d'idée, mais les savants comprennent-ils maintenant, mieux qu'ils ne le faisaient jadis, la pensée intime de Newton, un des hommes les plus religieux et les plus enclins au spiritualisme de son époque? On a certes le droit d'en douter. On assure que c'est Newton qui a donné le coup de grâce aux tourbillons élémentaux de Descartes, qui ne sont que la résurrection de l'idée d'Anaxagoras, soit dit en passant, bien que les modernes atomes tourbillonnants de Sir William Thomson ne diffèrent réellement pas beaucoup des précédents. Néanmoins, lorsque son disciple Forbes écrivit dans la préface du principal ouvrage de son maître une phrase dans laquelle il déclarait que « l'attraction était la cause du système », Newton fut le premier à protester solennellement, ce qui dans l'esprit du grand mathématicien revêtait l'aspect vague mais solidement enraciné de Dieu, le noumen de toute chose, était appelé, d'une façon plus philosophique, par les philosophes et les occultistes anciens et modernes, les « dieux » ou les puissances qui créent et façonnent. Note. L'attraction, écrit le matérialiste Le Couturier, est devenue maintenant pour le public ce qu'elle était pour Newton lui-même, un simple mot, une idée, entre parenthèses panorama des mondes, puisque la cause en est inconnue. Herschel dit virtuellement la même chose lorsqu'il fait observer que toutes les fois qu'il étudie le mouvement des corps célestes et le phénomène de l'attraction, il se sent pénétré à chaque instant de l'idée de l'existence de causes qui agissent pour nous, derrière un voile, déguisant leur action directe. Entre parenthèses, Musée des sciences, août 1856. Fin de note. Les manières de s'exprimer ont pu être différentes et les idées plus ou moins philosophiquement énoncées par l'Antiquité, tant sacrée que profane, mais l'idée fondamentale était la même. Note. Si nous sommes pris à partie parce que nous croyons à des dieux et à des esprits actifs, tout en refusant d'admettre un dieu personnel, nous répondrons aux théistes et aux monothéistes « Admettez que Jéhovah soit un des Elohim et nous serons prêts à le reconnaître. Faites de lui, comme vous en avez l'habitude, l'infini, l'unique et le Dieu éternel, et nous ne l'accepterons jamais sous cet aspect. » Les dieux tribaux étaient nombreux. La divinité une et universelle est un principe, une idée mère abstraite qui n'a rien à faire avec l'œuvre impure de la forme finie. Nous n'adorons pas les dieux, nous nous bornons à les honorer comme des êtres qui nous sont supérieurs. En cela, nous obéissons à la prescription mosaïque, tandis que les chrétiens désobéissent à leur Bible et les missionnaires plus que tous les autres. Entre guillemets, tu n'outrageras pas les dieux. Fermez les guillemets. Dit un de ceux-ci, entre parenthèses Jéhovah, dans l'Exode 12-28. Mais en même temps, le 20e verset renferme ce commandement. Ouvrez les guillemets. Celui qui sacrifie à un dieu quelconque autre que le Seigneur seul sera complètement détruit. Fermez les guillemets. Or, dans les textes originaux, il n'y a pas Dieu, mais Elohim. Nous défions la contradiction, et Jéhovah est l'un des Elohim, comme le prouvent ses propres paroles dans la Genèse 3:22, lorsque, ouvrez les guillemets, le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Fermez les guillemets. Il en résulte que ceux qui adorent les Elohim, les anges et Jéhovah, et leur font des sacrifices, ainsi que ceux qui outragent les dieux de leurs confrères en humanité, pêchent infiniment plus que les occultistes ou qu'aucun théosophe. En attendant, beaucoup de ces derniers préfèrent croire à tel seigneur ou à tel autre et sont parfaitement libres de faire ce qui leur plaît. Fin de note. Pour Pythagore, les forces étaient des entités spirituelles, des dieux, indépendants des planètes et de la matière telles que nous les voyons et les connaissons sur Terre, et qui sont souverains du ciel sidéral. Platon représente les planètes comme mues par un directeur intrinsèque qui loge en elles, comme un batelier dans son bateau. Quant à Aristote, il appelait ses régents des substances immatérielles, bien qu'à l'exemple de ceux qui n'avaient jamais été initiés, il refusa de reconnaître les dieux comme des entités. Cela ne l'empêcha pas de reconnaître le fait que les étoiles et les planètes n'étaient pas des masses inanimées, mais bien des corps agissants et vivants, comme si les esprits sidéraux étaient les parties les plus divines de leurs phénomènes. Note. Comparer les espèces immatérielles à du bois qui serait du fer, et se rire de Spiller parce qu'il en parle comme de matière non corporelle, ne suffit pas pour résoudre le mystère. Fin de note. Si nous cherchons des corroborations à des époques plus modernes et plus scientifiques, nous voyons Tycho Brahe reconnaître dans les étoiles une triple force, divine, spirituelle et vitale. Kepler, réunissant la phrase pythagoricienne « Le soleil gardien de Jupiter » au verset de David « Il plaça son trône dans le soleil » et « Le Seigneur est le soleil », etc., a dit qu'il comprenait parfaitement que les pythagoriciens aient pu croire que tous les globes disséminés dans l'espace étaient des intelligences douées de raison. Circulant autour du soleil, dans lequel réside un pur esprit de feu, source de l'harmonie générale. Lorsqu'un occultiste parle de Foat, l'intelligence qui vitalise et dirige le fluide universel électrique ou vital, on lui rit au nez. Pourtant, comme nous l'avons démontré, on ne connaît jusqu'à présent ni la nature de l'électricité, ni celle de la vie, ni même celle de la lumière. Dans la manifestation de chacune des forces de la nature, l'occultiste voit l'action de la qualité ou de la caractéristique spéciale de son noumen, qui est lui-même une individualité distincte et intelligente, de l'autre côté de l'univers manifesté et mécanique. Or, l'occultiste ne nie pas. Au contraire, il est prêt à défendre cette vue, que la lumière, la chaleur, l'électricité et autres ne soient des affections et non des propriétés ou des qualités de la matière. Pour parler plus clairement, la matière est la condition, la base ou véhicule nécessaire, le sine qua non de la manifestation de ses forces ou de ses agents sur ce plan. Mais pour l'emporter, les occultistes doivent examiner les titres que peut faire valoir la loi de gravitation, et avant tout ceux de la gravitation, reine et souveraine de la matière sous toutes ses formes. Pour le faire d'une manière efficace, il faut se remémorer l'hypothèse telle qu'elle était lors de sa première apparition. D'abord, est-ce Newton qui la découvrit le premier ? Le numéro du 26 janvier 1867 de l'Athénéum nous fournit de curieux renseignements à ce sujet. On y lit, citation, « On peut prouver d'une manière positive que Newton a emprunté tout ce qu'il savait de la gravitation et de ses lois à Böhm, pour lequel la gravitation ou l'attraction était la première propriété de la nature. Son système, entre parenthèses à lui, Böhm, nous montre le fond des choses, alors que la science physique moderne se contente d'en considérer le côté extérieur. » Fin de citation. Et plus loin, citation, « La science de l'électricité, qui n'existait pas encore au moment où Böhm écrivait, est pressentie dans ses ouvrages, et non seulement Böhm décrit tous les phénomènes de cette force qui sont aujourd'hui connus, mais encore il nous décrit même l'origine, la genèse et la naissance de l'électricité elle-même. » Fin de citation. De sorte que Newton, dont l'esprit profond lisait aisément entre les lignes et saisissait la pensée spirituelle du grand voyant sous la forme mystique qui l'enveloppait, est redevable de sa grande découverte à Jacob Böhm, le nourrisson des génies, des Nirmanakaya qui veillaient sur lui et le guidaient, et au sujet duquel l'auteur de l'article fait remarquer avec tant de raison que, citation, chaque nouvelle découverte scientifique contribue à prouver sa profonde connaissance, son intuition des procédés les plus secrets de la nature. Fin de citation. Ayant découvert la gravitation, Newton fut obligé, pour rendre le phénomène de l'attraction possible dans l'espace, d'annihiler en quelque sorte tous les obstacles physiques qui auraient été susceptibles d'entraver son action, entre autres l'éther, bien qu'il eût plus qu'un pressentiment de son existence. Pour soutenir la cause de la théorie corpusculaire, il établit un vide absolu entre les corps célestes. Quelles qu'aient été ses conjectures et ses convictions intimes au sujet de l'éther, quelque nombreux qu'aient été ses amis dans le sein desquels il se soit épanché, comme dans sa correspondance avec Bentley, ses enseignements n'ont jamais montré qu'il partageât cette croyance. S'il était persuadé que le pouvoir d'attraction ne pouvait être exercé que par la matière au travers du vide, comment se fait-il que jusqu'en 1860, des astronomes français, Le Couturier par exemple, aient combattu les désastreux résultats de la théorie du vide instituée par le grand homme? Le Couturier dit, citation, il n'est plus possible aujourd'hui de soutenir comme Newton que les corps célestes se meuvent au milieu du vide immense des espaces. Parmi les conséquences de la théorie du vide établie par Newton, il ne reste plus debout que le mot « attraction ». Nous voyons venir le jour où le mot « attraction » disparaîtra du vocabulaire scientifique. Fin de citation. Le professeur Winchell écrit, citation, « Ces passages, entre parenthèses lettres à Bentley, prouvent quelles étaient ses idées sur la nature du milieu de communication interplanétaire. » Tout en déclarant que les cieux étaient dépourvus de matière sensible, il faisait, en un autre passage, une exception pour, entre parenthèses, peut-être quelques fluides très légers, des vapeurs, des effluves, s'élevant des atmosphères de la Terre, des planètes et des comètes et du milieu éthéré extraordinairement raréfié que nous avons décrit ailleurs. Fin de citation. Cela prouve simplement que, même les grands hommes comme Newton n'ont pas toujours le courage de leurs opinions. Le docteur T.S. Hunt a attiré l'attention sur quelques passages longtemps négligés des œuvres de Newton, d'où il semble ressortir que la croyance à un milieu universel intercosmique de ce genre s'était peu à peu enracinée dans son esprit. L'attention n'avait jamais été attirée sur ces passages avant le 28 novembre 1881, lorsque le docteur Hunt donna lecture de sa chimie céleste depuis l'époque de Newton. Comme le dit le Couturier, citation, « Jusqu'alors, l'idée universellement répandue, même parmi les hommes de science, était que Newton, lorsqu'il défendait la théorie corpusculaire, prêchait le vide. » Fin de citation. Si ces passages avaient été longtemps négligés, c'est à coup sûr parce qu'ils étaient en contradiction et en conflit avec les théories préconçues et favorites du jour, qui eurent la vogue, jusqu'au moment où la présence d'un milieu éthéré devint impérieusement nécessaire pour expliquer la théorie ondulatoire. C'est là tout le secret. De toute façon, c'est du moment où cette théorie du vide universel fut enseignée par Newton, même s'il n'y croyait pas lui-même, que date l'immense dédain dont la physique moderne fait preuve envers l'ancienne. Les vieux sages avaient soutenu que la nature a horreur du vide, et les plus grands mathématiciens du monde, disons des races occidentales, avaient découvert et condamné cette antique illusion. Voilà maintenant que la science moderne rend justice, quoique de mauvaise grâce, au savoir archaïque, et se trouve de plus dans l'obligation de défendre aussi tardivement le caractère et la puissance d'observation de Newton, après avoir négligé, pendant un siècle et demi, de faire attention à des passages aussi importants, peut-être bien parce qu'il était plus prudent de ne pas les faire remarquer. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, le père Aether est de nouveau bienvenu, accueilli à bras ouverts, et on l'unit à la gravitation, à laquelle il restera attaché pour le meilleur ou pour le pire, jusqu'au jour où l'un des deux, ou tous les deux, seront remplacés par quelque chose d'autre. Il y a 300 ans, le plein régnait partout, puis il fut remplacé par un vide lugubre. Plus tard, encore, les océans sidéraux, que la science avait desséchés, se remirent à faire rouler leurs vagues éthérées. Recede ut procedas, entre parenthèses recule pour mieux sauter, doit devenir la devise de la science exacte. Exacte surtout parce que se reconnaissant inexact à chaque année bissextile. Ne nous querellons pourtant pas avec les grands hommes. Il leur a fallu remonter au premier dieu de Pythagore et du vieux Canada pour trouver la moelle même de leurs corrélations et de leurs découvertes les plus récentes, et cela peut donner bon espoir aux occultistes pour leurs dieux inférieurs. Car nous croyons à la prophétie de Le Couturier au sujet de la gravitation. Nous savons que le jour approche où les savants eux-mêmes réclameront, comme l'a déjà fait Sir William Grove, une réforme complète des procédés actuels de la science. Jusqu'à ce moment, il n'y a rien à faire, car si la gravitation était détrônée demain, les savants découvriraient un nouveau mode de mouvement mécanique le jour suivant. Note. Lorsqu'on lit les œuvres de Sir Isaac Newton, l'esprit libre de toute idée préconçue, on a sans cesse la preuve de l'hésitation qu'il a fait osciller entre la gravitation, l'attraction, l'impulsion de quelque autre cause inconnue, pour expliquer le cours régulier des mouvements planétaires. Voyez seulement son Treatise on Color, volume 3, question 31. Herschel nous assure que Newton laissa à ses successeurs le soin de tirer de sa découverte toutes les conclusions scientifiques. On peut se rendre compte de l'abus que la science moderne a fait de ce privilège pour asseoir ses plus récentes théories sur la loi de gravitation, lorsque l'on se rappelle combien ce grand homme était profondément religieux. Fin de note. La voie qu'a à suivre la vraie science est rude et escarpée, et elle est exposée à bien des contrariétés d'esprit. Toutefois, étant donné les 1000 hypothèses contradictoires qui étaient offertes pour expliquer les phénomènes physiques, on n'a pas trouvé de meilleure hypothèse à leur opposer que celle du mouvement, quelque paradoxale que soit l'interprétation qu'en a donnée le matérialisme. Ainsi qu'on peut le constater en se reportant aux premières pages de cet ouvrage, les occultistes n'ont rien à dire contre le mouvement, le grand souffle de l'inconnaissable d'Herbert Spencer. Note. L'idée matérialiste en vertu de laquelle le mouvement éternel du cosmos est dans le cosmos considéré comme l'espace infini est une fiction, parce que d'après les lois de la physique, le mouvement réel ou sensible est impossible dans le pur espace ou vide, prouve simplement que les expressions de pur espace, être pur, l'absolu, etc., dont se sert la métaphysique orientale, n'ont jamais été comprises en Occident. Fin de note. Mais comme il croit que tout ce qui existe sur Terre est l'ombre de quelque chose qui existe dans l'espace, il croit à l'existence de souffles moindres qui, vivants, intelligents et indépendants de tout sauf de la loi, soufflent dans toutes les directions durant les périodes manvantariques. La science n'en admettra pas l'existence, mais quoi que l'on mette au lieu et place de l'attraction, alias de la gravitation, le résultat sera le même. La science sera aussi loin de la solution des difficultés qui l'embarrassent, qu'elle en est maintenant, à moins qu'elle n'en vienne à un compromis avec l'occultisme et même avec l'alchimie, supposition qui sera considérée comme une impertinence, mais n'en restera pas moins un fait. Comme le dit Faye, citation, « Il manque quelque chose aux géologues pour faire la géologie de la Lune. » Deux points, c'est d'être des astronomes. À la vérité, il manque aussi quelque chose aux astronomes pour aborder avec fruit cette étude, c'est d'être des géologues. Fin de citation. Mais il aurait pu ajouter avec encore plus de pertinence, ce qui manque à tous les deux, c'est l'intuition du mystique. N'oublions pas les sages remarques finales de Sir William Grove au sujet de la structure ultime de la matière ou de la minutie des actions moléculaires que selon lui l'homme ne connaîtra jamais. Citation. On a déjà fait bien du mal en cherchant à disséquer la matière d'une façon hypothétique et à discuter la forme, le volume et le nombre des atomes, ainsi que leurs atmosphères de chaleur, d'éther ou d'électricité. Qu'il soit ou non admissible de considérer l'électricité, la lumière, le magnétisme, etc. comme de simples mouvements de la matière ordinaire, il est certain que toutes les théories passées ont réduit et que toutes les théories actuelles réduisent l'action de ces forces à du mouvement. Que ce soit parce que le mouvement nous est familier, que nous lui attribuons d'autres états, comme à un langage d'une construction facile et qui est éminemment apte à les expliquer, ou que ce soit le seul mode suivant lequel nos intelligences, en les distinguant de nos sens, soient capables de concevoir les influences matérielles, il est certain que depuis l'époque où les notions mystiques de puissance spirituelle ou surnaturelle étaient mises en jeu pour expliquer les phénomènes physiques, toutes les hypothèses fabriquées pour les expliquer les ont ramenées à du mouvement. Fin de citation. Puis, le savant homme émet un principe purement occulte. Citation. Le terme du mouvement perpétuel, que j'ai fréquemment employé dans ces pages, est lui-même équivoque. Si les doctrines émises ici sont bien fondées, tout mouvement est perpétuel, à un certain point de vue. Dans des masses dont le mouvement est arrêté par un choc mutuel, cela donne naissance à de la chaleur ou au mouvement de particules. Le mouvement continue donc, de sorte que si nous nous hasardions à étendre de telles pensées à l'univers, nous considérerions que la même somme de mouvement affecte à jamais la même quantité de matière. Fin de citation. C'est précisément ce qu'affirme l'occultisme en se basant sur ce principe que lorsqu'une force est opposée à une autre force et produit un équilibre statique, l'équilibre préexistant est affecté et un nouveau mouvement est généré, mouvement qui est l'équivalent de celui qui se trouve mis en échec. Ce processus comporte des intervalles durant le pralaya, mais il est éternel et incessant, comme le souffle, même lorsque le cosmos manifesté est en repos. Aussi, en supposant que l'on en vint à abandonner l'attraction et la gravitation pour considérer le Soleil comme un colossal aimant, théorie qu'acceptent déjà quelques physiciens, un aimant qui agirait sur les planètes ainsi qu'on suppose actuellement qu'agit l'attraction, où cela mènerait-il les astronomes ? Quelle avance gagnerait-ils sur le point où ils en sont actuellement ? Pas la moindre. Kepler fut amené à émettre sa curieuse hypothèse il y a environ 300 ans. Il n'avait pas découvert la théorie de l'attraction et de la répulsion dans le cosmos, car elle était connue depuis l'époque d'Empédocle, qui avait appelé ces deux forces « amour » et « haine », mots qui impliquent la même idée. Toutefois, Kepler donna une description assez exacte du magnétisme cosmique. Il est aussi certain que ce magnétisme existe dans la nature, qu'il est certain que la gravitation n'existe pas, du moins telle qu'elle est enseignée par la science, qui n'a jamais tenu compte des différents modes suivant lesquels cette double force, que l'occultisme appelle l'attraction et la répulsion, peut agir dans les limites de notre système solaire, dans celle de l'atmosphère de la Terre, et au-delà, dans celle du cosmos. Comme l'écrit le grand Humboldt, citation, l'espace transsolaire n'a pas laissé voir jusqu'à présent un seul phénomène analogue à ceux de notre système solaire. Une des particularités de notre système, c'est que la matière s'y soit condensée en anneaux nébuleux, dont les centres forment, en se condensant, des terres et des lunes. Je le répète, jusqu'à présent, rien de semblable n'a jamais été observé au-delà de notre système planétaire. Fin de citation. Il est vrai que depuis 1860, la théorie nébulaire a pris naissance et, mieux connue, a fait supposer que l'on avait observé des phénomènes identiques au-delà du système solaire. Pourtant, le grand homme est absolument dans le vrai. Aucune terre, aucune lune ne peuvent être découvertes, sauf en apparence, au-delà de notre système ou de matière de la même catégorie que celle qui le compose. Tel est l'enseignement occulte. Cela a été prouvé par Newton lui-même, car il existe dans notre système solaire de nombreux phénomènes qu'il s'est reconnu incapable d'expliquer par la loi de gravitation. Par exemple, l'uniformité de direction des mouvements planétaires, la forme quasi-circulaire des orbites et leur remarquable concordance avec un seul plan. Or, n'existerait-il qu'une seule exception, que cela suffirait pour que la loi de gravitation ne pût être qualifiée de loi universelle? Newton a déclaré, nous dit-on, dans ses notes générales, que ces arrangements sont l'œuvre d'un être intelligent et tout-puissant. Cet être pourrait bien être intelligent, mais quant à être tout-puissant, il y a toutes sortes de raisons d'en douter. Ce serait un piètre dieu que celui qui s'occuperait de petits détails et abandonnerait ce qu'il y a de plus important à des forces secondaires. La pauvreté de cette argumentation et de cette logique n'est surpassée que par Laplace, qui, cherchant à juste titre à substituer le mouvement à l'être tout-puissant de Newton, et ignorant la vraie nature de ce mouvement éternel, n'y vit qu'une loi physique aveugle. Ouvrez les guillemets. Cette organisation ne pourrait-elle pas être l'effet des lois du mouvement? Fermez le guillemet, demande-t-il. Oubliant, comme le font tous nos savants modernes, que cette loi et ce mouvement constituent un cercle vicieux, tant que la nature des deux reste inexpliquée. La fameuse réponse à Napoléon, ouvrez les guillemets, Dieu est devenu une hypothèse inutile, fermez les guillemets, n'aurait pu être correctement faite que par un adhérent de la philosophie des Védantins. Elle n'est plus qu'un pur sophisme si nous excluons l'intervention d'êtres actifs, intelligents, puissants, jamais tout-puissants, que l'on appelle des dieux. Nous pourrions demander aux critiques des astronomes du Moyen-Âge pourquoi on accuserait Kepler d'être très anti-scientifique, alors qu'il offre précisément la même solution que Newton, se bornant à se montrer plus sincère, plus conséquent et même plus logique que lui. Quelle différence peut-il bien y avoir entre l'être tout-puissant de Newton et les recteurs de Kepler, ses forces sidérales ou cosmiques ou ses anges? On critique aussi Kepler à cause de sa curieuse hypothèse qu'il a employée, d'un mouvement tourbillonnant dans les limites du système solaire, à cause de ses théories en général, et parce qu'il a favorisé les idées d'Empédocle sur l'attraction et la répulsion, et en particulier sur le magnétisme solaire. Cependant, de nombreux savants modernes, comme nous le démontrerons, Hunt, s'il nous faut exclure Metcalf, le docteur Richardson, etc., favorisent très énergiquement les mêmes idées. On l'excuse pourtant à moitié sous prétexte que, citation, jusqu'à l'époque de Kepler, on n'avait clairement reconnu aucune action réciproque entre des masses de matière qui différa génériquement du magnétisme. Fin de citation. Est-ce clairement reconnu maintenant? Le professeur Winchell prétend-il attribuer à la science une connaissance sérieuse quelconque de la nature de l'électricité ou du magnétisme, sauf que ces deux forces semblent être les effets d'un résultat produit par une cause indéterminée? Les idées de Kepler, lorsqu'on en écarte les tendances théologiques, sont purement occultes. Il remarquait que, premièrement, le Soleil est un grand aimant. C'est ce que croient quelques éminents savants modernes et aussi les occultistes. Deuxièmement, la substance solaire est immatérielle, dans le sens de matière existence ou des états inconnus à la science, cela va sans dire. Troisièmement, il attribuait le mouvement constant et l'entretien de l'énergie du Soleil et le mouvement planétaire aux soins incessants d'un ou plusieurs esprits. L'Antiquité tout entière partageait cette idée. Les occultistes n'emploient pas le mot esprit mais parlent de forces créatrices qu'ils douent d'intelligence, mais nous pouvons aussi les appeler des esprits. On nous accusera de contradiction. On dira que tout en niant Dieu, nous admettons des hommes et des esprits actifs, et citons des écrivains catholiques Romain Bigot à l'appui de notre argumentation. Nous répondrons à cela, nous nions l'existence du Dieu anthropomorphe des monothéistes, mais nous n'avons jamais nié le principe divin dans la nature. Nous luttons contre les protestants et les catholiques romains à propos d'un certain nombre de croyances théologiques d'une origine humaine et sectaire. Nous sommes d'accord avec eux au sujet de leur croyance à des esprits et à des puissances actives et intelligentes, bien que nous ne rendions pas un culte aux anges comme le font les catholiques de l'Église romaine latine. Cette théorie est mise à l'index bien plus à cause de l'esprit qui y trouve place que pour toute autre raison. Herschel, l'aîné, y croyait aussi, et plusieurs savants modernes en font autant. Cela n'empêche pas le professeur Winchell de déclarer qu'une hypothèse plus fantaisiste et en plus complet désaccord avec les exigences des principes physiques n'a jamais été mise en avant, pas plus dans l'Antiquité que dans les temps modernes. Fin de citation. On a dit jadis la même chose de l'éther universel, et maintenant il est non seulement accepté, bon gré mal gré, mais on le représente encore comme pouvant seul expliquer certains mystères. Les idées de Grove, la première fois qu'il les émit à Londres vers 1840, furent déclarées anti-scientifiques. Pourtant, sa théorie de la corrélation des forces est aujourd'hui universellement acceptée. Il faudrait vraisemblablement quelqu'un de plus compétent que l'auteur au point de vue scientifique pour combattre avec quelques chances de succès un certain nombre d'idées qui dominent aujourd'hui au sujet de la gravitation et d'autres solutions similaires des mystères cosmiques. Rappelons pourtant certaines objections faites par des savants reconnus, par des astronomes et des physiciens éminents qui ont repoussé la théorie de la rotation aussi bien que celle de la gravitation. On lit par exemple dans l'Encyclopédie française que la science admet par la bouche de tous ses représentants qu'il est impossible d'expliquer l'origine physique du mouvement rotatoire du système solaire. Si on demande quelle est la cause de la rotation, on nous répond « c'est la force centrifuge ». Et cette force, qu'est-ce qui la produit? La force de rotation, nous répond-on gravement. Il serait peut-être bon d'examiner jusqu'à quel point ces deux théories sont reliées entre elles, directement ou indirectement.